à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. À la une de l'actualité, au Mali, l'otage française Sophie Petronin et la religieuse colombienne apparaissent dans une nouvelle vidéo. En République démocratique du Congo, funérailles de l'activiste Luc Nkulula, mort dans l'incendie de sa maison à Ngoma. Le Cameroun se prépare pour l'ouverture de la CAN 2019 avec la construction à Yaoundé d'un stade de 60 000 places. En Afrique du Sud, un homme a poignardé deux personnes dans une mosquée avant d'être abattu par la police. Tout d'abord, le journal du Mondial 2018 qui débute aujourd'hui en Russie avec Yacouba Ouadréogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous et à toutes, ça y est, nous y sommes. C'est parti pour 32 jours de foot. La 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018 a commencé aujourd'hui. Le verdict de ce acte 21 sera connu le 15 juillet et on saura qui succédera à l'Allemagne, vainqueur du Brésil 2014. Mais déjà à match d'ouverture, le pays hôte, la Russie, s'est imposée devant son public 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Les Russes prennent donc la tête du groupe A en attendant la sortie demain de l'Égypte et de l'Uruguay. Bien avant ce premier match entre la Russie et l'Arabie Saoudite, les 80 000 spectateurs du stade de Luzhniki ont eu droit à une belle cérémonie d'ouverture. La Sina Sawadogo était au stade pour cette entrée en matière de la fête du ballon rond. Nous l'avons joint depuis le stade de Luzhniki. Écoutons-le.
Nous avons été très très heureux et privilégiés des 80 000 spectateurs du stade de Luzhniki pour vivre cette cérémonie d'ouverture riche en couleurs. La Russie a voulu faire parler son cœur à travers donc ces différents schémas qui nous ont été donnés de voir donc ici au stade de Luzhniki à Moscou, avec bien sûr en toile de fond ce stade de la musique russe qui ont presté. Écoutez, on a pris plein les yeux. C'était d'abord de la tradition, c'était aussi de la modernité. La Russie qui s'ouvre à la face du monde. Et c'est ce que les Russes ont voulu montrer au monde entier à travers cette cérémonie d'ouverture.
Côté africain, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc représenteront le continent. Le bal s'ouvre demain pour deux pays africains. L'Égypte de Mohamed Salah, dont le sélectionneur Hector Cooper dit être sûr à 100% qu'il jouera contre l'Uruguay à 12h temps universel pour le deuxième match du groupe A. À 15h, le Maroc entrera en compétition contre l'Iran avant le choc du groupe B, Portugal-Espagne à 18h. Ce groupe B est assez relevé, mais les Marocains veulent y croire. C'est du moins le sentiment que de nombreux Marocains ont exprimé lorsque Sabrina Hakimi a promené son micro dans les rues de Casablanca. Écoutons.
Qu'ils soient des hommes et qu'ils soient des lions sur le terrain. Il faut qu'ils jouent pour les couleurs du Maroc. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Et Inch'Allah, il y aura une victoire. On attend qu'ils fassent des bons matchs à la Coupe du Monde et de bons résultats contre l'Iran. Et qu'ils atteignent la finale, Inch'Allah. Nous avons une bonne équipe cette année. On aimerait qu'ils jouent avec un bon esprit. On espère qu'ils passent au moins le deuxième tour. Ça fait longtemps qu'on attend de les voir jouer en Coupe du Monde. On attend une équipe qui se donne à fond sur le terrain. On espère aussi les voir bien représenter le Maroc en Russie.
Bonne chance donc aux Lions de l'Atlas et aux autres équipes africaines. Et à vous, on se dit au revoir sur le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. Tous les regards sont tournés vers la Russie où commence ce 14 juin la 21e Coupe du Monde de football de l'histoire. 21 ans, comme l'âge de la maturité, pour cet incomparable rendez-vous sportif dont on attend qu'il relève de nombreux défis cette année. Déjà la polémique qui a accompagné le choix du lieu d'organisation, les ondes de choc de l'épisode du dopage d'État russe et les récentes tensions diplomatiques d'origine diverse ont un moment laissé planer le doute sur le démarrage normal de l'événement. Heureusement, la mécanique habituelle s'est mise en marche. Il aurait été frustrant de remettre en cause l'organisation du tournoi mondial chez l'une des trois grandes nations de football à ne pas l'avoir abrité jusque-là, à côté du Portugal et des Pays-Bas. La FIFA n'a-t-elle pas confirmé son universalité en adoptant le slogan « Le football et le monde ». Par ailleurs, nul ne doute que, comme à Sochi, les défis de l'organisation, de la technique et de la participation populaire ne soient gagnés, tout comme celui de la sécurité, même si le risque zéro n'existe pas. Là où le bas blesse, la véritable inconnue concerne l'aspect sportif des événements. Pour que la fête soit belle, l'équipe du pays hôte se doit d'accomplir un parcours honorable, ce que la qualité de la sélection russe actuelle ne fait pas espérer, à moins qu'un sursaut ne l'amène à accomplir un exploit comme la Suède de 1958 ou la Corée du Sud de 2002. Pour cela, croisons les doigts et que la fête commence. Le bal est ouvert. À bientôt.
C'était le journal du mondial signé Yacouba Ouédraogo que nous retrouverons demain. Maintenant, le reste de l'actualité dans le monde. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a publié hier une vidéo prouvant que deux femmes kidnappées depuis plus d'un an sont toujours en vie. Idriss Fall.
La Française Sophie Petronin, 75 ans, apparaît dans cette vidéo diffusée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Elle a été enlevée fin 2016 à Gao et indique que le film a été enregistré le 7 juin. Un bandeau écrit en arabe en bas de l'écran dit « Sauvez nos âmes ». La Française s'adresse aux autorités de son pays et dit craindre d'être aujourd'hui une otage sacrifiée. Dans le même temps, elle s'adresse longuement à son fils. Dans la même vidéo apparaît une autre otage en train de s'occuper de la Française. La sœur colombienne Gloria Cecilia Narvaez a été enlevée fin février 2017 près de la frontière avec le Burkina Faso. Elle s'est adressée au pape François qu'elle a remercié et l'a supplié d'intervenir pour aider la Française. En janvier, le groupe djihadiste avait publié une autre vidéo demandant le paiement d'une rançon pour la libération de la sœur colombienne.
Les Britanniques ont commencé à déployer au Sahel un détachement d'hélicoptères de transport pour épauler les troupes françaises dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Les premiers Britanniques sont arrivés à Niamey, capitale du Niger, et les hélicoptères suivront. Le détachement de près d'une centaine d'hommes sera totalement opérationnel en juillet-août. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015, pour lequel comparaissent 84 accusés, a été une nouvelle fois renvoyé. Au 29 juin, cette fois, la défense conteste encore la légitimité des deux juges. Entamé en février, le procès va de renvoi en renvoi sans que le fond ait encore pu être débattu. Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées dans des attaques de villages dans le nord du pays, toujours en proie à la violence de bandes armées. Mercredi, de présumés voleurs de bétail ont attaqué 4 villages dans l'état de Zamfara. Ces attaques faisaient suite au meurtre d'un bandit présumé par des miliciens locaux sur un marché local quelques jours plus tôt. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, en visite officielle à Libreville, a demandé au Gabon de maintenir ses 444 soldats présents au sein de la mission de l'ONU en République centrafricaine. Libreville avait décidé de les retirer en juin. Le président Bongo a promis réexaminer sa position. En République démocratique du Congo, le collectif des laïcs catholiques organisateurs des marches anti-Kabila a exigé des autorités des signaux clairs que des élections crédibles seront organisées le 23 décembre en République démocratique du Congo pour désigner un successeur au président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2016. Toujours en République démocratique du Congo, le géant minier suisse Glencore et la société congolaise Gécamines ont trouvé un accord pour la sauvegarde de la mine de cuivre de Kamoto. La Gécamines accusait Glencore de ponctionner à son seul profit la trésorerie et les richesses de la société commune. La contreprise espère que d'ici la fin de l'année, la société congolaise pourra payer un impôt sur le revenu et distribuer des dividendes à ses actionnaires. En Afrique du Sud, 2 personnes ont été tuées, 2 autres blessées dans une attaque à l'arme blanche dans une mosquée. L'assaillant d'origine somalienne a été abattu par la police. Le point avec Marine Beth Benson.
2 personnes ont été tuées à la mosquée de Malmesbury et 2 autres blessées, dont l'imam local. Le suspect, âgé d'une trentaine d'années, serait d'origine somalienne. Il a attaqué la police avec un couteau avant d'être abattu. Il y a un mois, une attaque similaire a eu lieu dans une autre mosquée de Verulam au nord de Durban. 3 personnes avaient égorgé un homme et poignardé 2 autres. Les auteurs sont toujours en fuite. Le mobile des 2 attaques n'est pas connu, mais selon la police locale, l'attaque de Verulam portait des signes d'extrémisme. Selon Ebrahim Rassol, un responsable de l'ANC, le président Cyril Ramaphosa est inquiet face à l'augmentation de la violence dans le pays et appelle à la paix et à la tolérance.
Au Zimbabwe, le président en exercice Emmerson Mnangagwa et celui de l'opposition Nelson Chamisa ont déposé leur dossier de candidature pour la présidentielle du 30 juillet. Ce sera le premier scrutin depuis la chute de Robert Mugabe. Dans tout le pays, les candidats à la présidentielle, aux législatives et aux élections municipales étaient appelés à faire acte de candidature auprès des tribunaux. Au Cameroun, un frein dans les travaux de construction du stade d'Olembe en banlieue de Yaoundé. C'est ce site qui va accueillir le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019 à Yaoundé. Les ouvriers réclament notamment les paiements de primes et avantages par la société italienne en charge des travaux du dit stade. Les précisions à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jumtap.
Les policiers ont investi le site de l'Embe ce jeudi matin pour encadrer la concertation entre les ouvriers du stade de 60 000 places en construction et les entreprises responsables des différents chantiers sur le site. Nous avons cherché des voies et moyens pour amener la paix sociale sur le chantier et mieux prendre en compte les revendications des ouvriers, a confié à VOA Afrique Gustave Tsapon, délégué du personnel. À l'issue, nous avons maintenu la suspension de la grève et nous attendons avant ce samedi l'ouverture d'un dialogue sous l'égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a ajouté M. Tsapon. Les ouvriers grévistes réclament, entre autres, un reclassement général des primes de risque, de rendement, de responsabilité et la hausse de la prime de ration journalière. L'indemnité de logement pour tous les travailleurs sur le site entre aussi dans les revendications ainsi que de meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. La société italienne en charge des constructions dit n'avoir aucun manquement avec son personnel et accuse les entreprises de sous-traitantes. Par voie de communiqué signé du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement camerounais a pour sa part appelé les entreprises sur le chantier de l'Embe à achever les travaux dans les délais et à veiller à la bonne qualité des relations professionnelles dans l'exécution des prestations. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Abedi Pelé, ancien capitaine du Ghana, a été nommé au sein d'un comité mis en place après la dissolution de la Fédération ghanéenne de football frappée par un scandale de corruption. Le comité intérimaire, composé de 5 membres, dont Abedi Pelé, aura pour mission de gérer les affaires sportives après la dissolution de la Fédération et la démission de son président, Kwesi Nyantakwi. L'affaire avait été déclenchée suite à la diffusion d'un documentaire révélant des fraudes, pots de vin et corruption au sein de la Fédération ghanéenne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les 28 États membres de l'Union européenne ont approuvé à l'unanimité des mesures de rétorsion contre certains produits américains comme les jeans, le bourbon ou les motos en réponse aux taxes imposées par Washington sur l'acier et l'aluminium. Des précisions avec Bagassi Koura.
L'Union européenne va taxer lourdement des dizaines de produits américains en réponse aux droits de douane des États-Unis sur l'acier 25% et l'aluminium 10%. Cette liste a été déjà envoyée à l'Organisation mondiale du commerce le 8 mai dernier. La liste d'articles établie par la Commission européenne cible dans certains cas des États américains, souvent agricoles, qui ont voté pour Donald Trump en 2016. Ces produits sont listés selon une nomenclature douanière très précise. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a cité début mars Harley Davidson et Levis. L'Union européenne a exporté vers les États-Unis en 2017 de l'acier pour 5,3 milliards d'euros et 1,1 milliard d'euros d'aluminium. Les contre-mesures européennes visent à compenser dans un premier temps à hauteur de 2,8 milliards d'euros les dommages que causeraient les taxes américaines, un chiffre mesuré selon la Commission. D'autres produits pourraient à l'avenir être également taxés à hauteur de 3,6 milliards d'euros si celle-ci remporte le litige qui l'oppose aux États-Unis devant l'OMC depuis sa plainte le 1er juin.
Au Proche-Orient, un Palestinien blessé par des tirs israéliens lors de manifestations dans la bande de Gaza a succombé à ses blessures. Au moins 130 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de la protestation le long de la frontière le 30 mars. L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé mercredi une résolution condamnant Israël pour usage excessif de la force contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. C'est tout pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Kabadou, toujours en votre compagnie pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Où se trouve Jean-Pierre Bemba, l'ancien chef rebelle acquitté par la chambre d'appel de la CPI? Il a obtenu la remise en liberté provisoire et aurait quitté mardi soir le centre de détention à La Haye, alors que le trajet par train jusqu'à Bruxelles dure seulement une heure. Où l'ancien vice-président congolais se trouve-t-il? Eddy Issengo a posé la question à un avocat de la CPI, maître Hervé Diakessé.
Jean-Pierre Bemba est encore sur le territoire des Pays-Bas. Il est temps de régulariser sa situation administrative, puisqu'étant détenu, il n'avait plus de passeport en cours de validité, et que c'est ça qui devrait lui permettre de rejoindre sa famille en Belgique.
Les gens se posent la question de savoir ce que voudrait dire la liberté provisoire, vous en tant qu'avocat. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus?
L'élément qui a joué en faveur de sa liberté provisoire dans la nouvelle affaire, c'est le temps qu'il a déjà passé en détention préventive, quasiment 10 ans. Et vu que la peine maximale encourue dans la nouvelle affaire de subornation de témoins ne peut dépasser 5 ans, quoi qu'il en coûte, il y aura compensation de deux peines. Donc c'est à cause de ça qu'il est en régime de liberté provisoire.
Régime de liberté provisoire, ça va avec des restrictions. Quelles sont-elles?
En règle générale, lorsqu'une personne est en liberté provisoire, et en l'occurrence à l'affaire de Jean-Pierre Bemba, il lui interdit d'entrer en contact avec les protagonistes de l'affaire, notamment les témoins, les victimes et toute autre personne dont les contacts pourraient être perçus comme une entrave à la manifestation de la vérité ou au bon fonctionnement de la justice. Il doit signaler ses différents déplacements auprès des autorités judiciaires qui lui seront désignées, afin que la justice soit toujours en mesure de pouvoir l'atteindre chaque fois que besoin est, et il est dans l'obligation de toujours se mettre à la disposition de la justice chaque fois qu'on aura besoin de lui.
Cela peut-il avoir un impact sur ses ambitions politiques, s'il en a, parce que bientôt on commence les élections en RDC et l'enregistrement des candidatures?
C'est la plus grande spéculation. En règle générale, un casier judiciaire vierge, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus intéressant pour une personne qui a des ambitions politiques. Cela étant, Jean-Pierre Bemba n'a aucune condamnation en justice en République démocratique du Congo, mais les condamnations au niveau de la justice pénale internationale ont une incidence sur son casier judiciaire à travers le monde. Mais est-ce que cela joue sur le cause d'inéligibilité? Le débat reste ouvert. C'est encore prématuré. Encore faut-il qu'il soit candidat à quelque chose. Ça, il n'a pas encore dit.
Vous avez parlé tout à l'heure de la Belgique, un contentieux. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Un contentieux sur les passeports.
J'ai cru comprendre que Jean-Pierre Bemba est résident en Belgique. C'est d'ailleurs à partir de ces pays qu'il avait été appréhendé pour être déféré vers la CPI. Et donc, s'il doit aujourd'hui quitter la CPI, c'était pour rentrer au pays où il est résident, avant de rejoindre éventuellement son pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo.
Maître Hervé Diakessé, avocat de la CPI. En République démocratique du Congo, l'inhumation aujourd'hui de Luc Nkulula, activiste congolais décédé la nuit du samedi à dimanche dernier. Ses camarades du mouvement pro-démocratie Lucha lui ont rendu un dernier hommage. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, était à la cérémonie du dernier hommage.
C'est le temps que la famille a pour le Congo, pour la nation, pour se faire. Adieu, président.
Pour les triomphes des droits humains, pour les triomphes de la liberté, vive à l'offrage, à nos grands héritages des livres, la lutte pour les changements.
Des témoignages et hommages pour les membres de la famille à celui que ses camarades surnommaient H2O, un nom de code donné par ses camarades lors des multiples manifestations à Goma. Dans la salle, certains n'arrivent même plus à retenir les larmes.
Link est parti. Mon mentor, il me disait qu'il faut mourir pour le pays. Nous avons passé des matchs pour libérer notre peuple, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays.
Le plus frappant parmi les témoignages, c'est celui de cette femme, mère de famille, qui se souvient de Luc un jour lorsqu'elle allait le rendre visite dans un cachot à Goma.
Luc nous formait même nous, les mamans.
Mais il m'a donné la joie. Merci Luc pour la lutte. Merci Luc
parce que c'est seulement comme ça, c'est par ce passage, par ces emprisonnements, que nous aurons un changement. Et directement, il a dit la lucha.
Dans la salle des cérémonies, des personnalités politiques et des représentants des associations des jeunes auxquelles Luc appartenait, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, appelle aussi à une enquête sur cette mort tragique. Les députés nationaux de l'opposition élus de Goma, Zangi Butondo, qui a aussi échappé dernièrement à la mort dans les mêmes circonstances lors de l'incendie de sa résidence, n'exclut pas que Luc était aussi dans les viseurs.
Ce jeune garçon qui a été fauché par les syndicats criminels de sa maison, que c'est inacceptable qu'on s'apprenne à des jeunes militaires qui ne réclament que la démocratie qui est pourtant prévue dans notre constitution.
Décédé la nuit du samedi à dimanche dernier dans l'incendie de sa maison, le parquet de grande instance de Goma a ouvert une enquête depuis 48 heures maintenant avec le soutien de la mission onusienne en RDC. L'activiste congolais Luc Nkulula laisse des idées. Ses compagnons de lutte viennent de le proclamer héros du peuple à titre posthume. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum revient sur le sommet inédit Donald Trump-Kim Jong-un. Le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen ont signé un document mentionnant une dénucléarisation de la péninsule coréenne en échange de garanties de sécurité. Que retenir de cette rencontre historique? Quelle est la valeur de l'accord signé? Que dit-il? Va-t-il changer la donne? Quelles peuvent être ses conséquences sur les relations internationales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement annonce la reconnaissance de 55 partis politiques sur quelques 200 qui existent dans le pays. Sur la liste, des partis sont appelés à disparaître au terme de cette nouvelle loi. Nombreux appartiennent à des figures de proue de l'opposition comme Claudine Mounari et Machanzon. De Brazzaville, des détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
C'est dans une salle comble de responsables des partis de l'opposition que le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boulou, annonce l'application de la loi de 2017 interdisant toute formation politique n'ayant pas de représentation sur l'ensemble du pays.
À la date d'aujourd'hui, nous en reconnaissons 49. Le processus ne s'arrête pas tant que les gens veulent créer leur parti. Mais il faut se conformer à la loi de 2017.
De leur côté, les partis de l'opposition se sentent visés par cette mesure. Clément Mirassa, dont le parti a boycotté les dernières consultations électorales, manifeste son mécontentement.
Mais j'espère que le gouvernement, à travers son ministre de l'Intérieur, a été à l'écoute de ce qui lui a été dit. L'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Et les choses sont claires. Ça veut dire en fait qu'il y avait un plan caché en espérant faire disparaître un certain nombre de partis. Dans tous les cas, nous l'avons bien signifié, nous ne sommes pas concernés par cette loi. Dans tous les cas, moi, ça ne me surprend pas.
Pour Éric Mampouya de la Fédération de l'opposition congolaise, cette nouvelle disposition rétrécit l'espace de la démocratie au Congo.
Nous pensons que le Congo est occupé par un régime qui se maintient par la force. Nous, en tant que parti ou bien mouvement, nous n'allons plus exister. D'accord, mais nous avons connu dans ce pays-là, dans l'époque du marxisme, les églises étaient interdites, les partis étaient interdits, et ça n'empêchait pas les Ngunza de fonctionner ou les Mathieuanistes de se réunir. Et toi, nous sommes frappés d'interdiction, c'est simple, nous allons rentrer dans la clandestinité. On ne peut pas nous empêcher de penser, de rêver à un autre Congo.
Reconnaissant la rigueur de la loi, le président du Parti des Républicains, Paul-Marie Pouellet, lui aussi un opposant, estime qu'il faut se régulariser pour continuer d'exister.
Nous allons régulariser notre situation et voilà, on va continuer à vivre parce que nous avons différence à promouvoir et nous devons nous battre pour que cette différence puisse triompher.
La société civile analyse avec beaucoup de circonspection cette nouvelle loi sur les partis politiques. Roch Eloge Nzobo est le responsable du SEC pour les droits de l'homme et le développement. Il dénonce un vice juridique.
En réalité, ce ne serait pas au ministre de l'Intérieur de faire cette déclaration. Il y a une loi qui existe et la justice devait être saisie pour justement statuer sur la légalité ou l'illégalité des partis politiques. Mais pourquoi est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui vient là? prononcer. Parce qu'il ne faut pas prendre justement des mesures arbitraires pour légaliser certains partis satellites.
Finalement, l'administration du territoire a reconnu 55 partis selon une liste signée le 12 juin et dont copie est parvenue à VOA Afrique. Même sur cette nouvelle liste, pas de formation des opposants de Procom, Claudine Mounari, Mathias Nzon, Blachar Robin ou Christophe Moukweke. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, la paix, la stabilité, une bonne saison de pluie et la bonne organisation de l'élection présidentielle sont entre autres des sujets abordés lors de la célébration de la fête pour la fin du Ramadan. À Bamako, Kassim Traoré.
Après un mois d'abstinence, de prières et de bénédictions, les fidèles musulmans ont convergé vers les places publiques pour participer à la prière d'Aïd el-Fitr ou la fête des Ramadan. Bekay Kunta, imam de la grande mosquée de Banankabougou.
Allahumma salli ala sayyidina wa ala sahbihi wa sallam. Amma yini ala fa ya rabbi alaka sanadin yuntuma yiran.
Je rends grâce à Allah de nous avoir montré ce grand jour. Je prie pour la paix au Mali. Je demande à Dieu de donner le pouvoir à celui qui le mérite. Notre pays n'a pas besoin d'une autre crise. Dans leurs prières et vœux formulés au cours de cette fête de Ramadan, les fidèles ont mis l'accent sur la bonne organisation de la présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 29 juillet prochain. Haruna Sissé, ancien ministre.
Par la grâce de Dieu, nous voici à la fête de l'Aïd el-Fitr par laquelle nous rendons grâce à Dieu. Nous accomplissons ainsi un des devoirs cardinaux de notre religion, qui est une religion de paix. Mon souhait est que Dieu nous inspire, que notre pays puisse toujours aller de l'avant. Les élections qui s'annoncent, nous souhaitons qu'elles se passent dans les meilleures conditions possibles pour le pays, dans le sens de la paix retrouvée, dans la paix, dans la sécurité et dans le vivre ensemble.
Communion dans la paix, des prières, des vœux. Si la fête des Ramadan, ce sont les enfants d'abord.
C'est la fête des enfants parce qu'il faut des chaussures, des lunettes, c'est tressé, c'est coiffé. Donc Dieu merci, par la grâce de Dieu, on a eu pour les enfants. Quand il y a pour les enfants seulement, les mamans sont contentes. Et on peut dire Alhamdulillah, la fête, ça se passe très bien. Oui. Parce que les enfants sont heureux. Mes vœux, santé, bonheur, longévité, succès et surtout le travail. On a le diplôme, on n'a pas de travail. Donc vraiment, on espère que cette année nous ouvre les portes pour qu'on puisse avoir du travail.
Ibeka était parmi les fidèles de la grande mosquée de Bamako. Candidat à sa propre succession, le président malien a donné des assurances quant à la bonne organisation de la présidentielle.
Un peuple qui a réussi par sa volonté à établir des règles démocratiques, à savoir le renouvellement régulier de ses institutions, par son choix, son libre choix, que nul n'a le droit d'entraver. Et l'État a le devoir de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Son devoir, c'est la préparation minutieuse, correcte, conforme à l'islam dont nous réclamons, c'est-à-dire d'un esprit de justice, d'inclusivité, de parfaite correction de l'ensemble du processus électoral, pour qu'il soit le plus transparent possible, le plus apaisé possible.
Tout au long de cette journée, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la stabilité, une bonne saison de pluie et une meilleure organisation de la présidentielle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205 2633. 001-202-205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Nashran Kale. À la présentation, Ekia Badou. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités.
Afrique. Le monde